Et vous le savez, il n'y a pas de repos pour les Braves ni pour les fans de l'NBA. On est ravis de vous retrouver ce matin avec Shai qui est dans un endroit que l'on ne divulguera pas. Il a été mis au système de comment dire, vous savez, pour la protection des témoins qui sont recherchés par la mafia. On ne vous dira pas où il est. Shai, il y avait donc trois matchs de play-off hier, trois matchs de conférence Est, dont deux qui auraient pu être déterminants et mettre fin à des séries. Finalement, à l'Est, les équipes ne se détestent pas encore suffisamment. Elles ont envie de se revoir match après match. Donc ces deux séries vont continuer. Écoute, je te propose qu'on commence tout de suite par le match qui était peut-être celui le plus attendu par les fans. Le match 5 de la série New York Sixers. Victoire assez incroyable des Sixers. 112 à 106 contre New York après prolongation. Écoute, avant de parler de New York, je te propose qu'on commence par parler de Philadelphie. Qu'est-ce que t'as retenu de ce match du côté de Philly?
Ah, c'est incroyable. Bah, du côté de Philly, c'est difficile de penser à autre chose que ce qu'a fait Tyrese Maxey, quoi. Ça a rappelé, c'est ce que je vois. Enfin, tout le monde en parle un peu comme ça, dans ces termes-là, mais ça a rappelé aux fans des Knicks des mauvais souvenirs avec un certain Reggie Miller, avec un nombre de points incroyable sur un temps très réduit. Mais Tyrese Maxey a fait un match phénoménal, et une fin de match phénoménale surtout, parce qu'il inscrit 7 points en 25 secondes, alors que son équipe était menée de 6 points à 28 secondes de la fin. Donc il arrache la prolongation sur un tir depuis le logo avec un sang-froid assez incroyable, et grâce à lui les Sixers qui étaient au bord du précipice, hein, tu l'as dit, là, c'était la qualif des Knicks leur tendait les bras, et les Sixers ont réussi à arracher ce match en très grande partie grâce à ce qu'a fait Tyrese Maxey sur cette courte période. C'est une performance mémorable pour lui, mémorable pour les Sixers. Il finit à combien de points? Il était à 40.
Il finit à 46 points à 17 sur 30 au tir, 5 rebonds, 9 passes.
Ouais, voilà, match exceptionnel et fin de match exceptionnel pour lui, qui, faut bien le préciser quand même, c'est l'instant cocorico. On n'aurait peut-être pas parlé si Nicolas Batum n'avait pas scotché, contré Jalen Brunson à la dernière seconde pour préserver la prolongation. Parce que forcément, si Brunson met le game winner, on parle plus trop de ce qu'a fait Tyrese Maxey juste avant.
Ouais, c'est clair, on va parler, alors je vais sortir aussi les stats de Joel Embiid, 19 points, 16 rebonds, 10 passes, donc triple-double, ça a failli être un quadruple-double parce qu'il finit aussi avec 9 balles perdues, voilà, 7 sur 19 au tir, vraiment Joel Embiid manifestement extrêmement diminué, mais qui a quand même été énorme dans son impact sur ce match. Moi je retiens aussi du côté de Philly, parce qu'après il y a plein de choses à dire du côté de New York, et puis on pourra reparler un petit peu du déroulement du match, mais la défense incroyable de cette équipe des Sixers, vraiment depuis la première minute, première seconde même, il faut dire que ça avait commencé dans une ambiance plutôt bon enfant, parce qu'il y avait des cris de fuck Embiid qu'on commençait avant même l'entre-deux dans la salle, donc c'était assez bonne vibe. Mais ouais, défense incroyable de cette équipe de Philly, qui était prête à jouer et qui a voilà, c'est une performance au-delà des deux stars. J'ai trouvé que c'était une performance d'équipe vraiment impressionnante du côté des Sixers, et j'en profite pour noter quand même les 19 points, 8 rebonds de Tobias Harris à 7 sur 11 au tir, qui a été excellent en défense notamment. Il a apporté ses 19 points, il n'était pas bon dans la série offensivement, mais défensivement dans ce match j'ai trouvé aussi à la hauteur de tous les autres joueurs de cette équipe de Philly.
Ouais, t'as raison. Bah, défensivement, il y a aussi Joel Embiid en prolongation qui a été important. Il a été agressif, il a été dur, ce qui lui a été un peu reproché de trop pleurer, de trop réclamer. Il a été très bon défensivement en prolongation, et ça a un peu compensé pour son match qui, à côté du triple-double, qui est une performance incroyable, mais qui a été un peu compliqué. Et défensivement, t'as raison, les Sixers ont livré une prestation mentalement impressionnante, parce que voilà, tu rappelles le contexte, c'était ambiance hostile à la fois sur Embiid et puis sur toute l'équipe, et gagner un match comme ça au Garden en prolongation, alors que les Knicks en prolongation avaient refait un tout petit écart au début, ils avaient repris 5 points. Tyrese Maxey remet un panier à 3 points pour les ramener à hauteur. Enfin, c'était un match assez fou, quoi. C'était ambiance dingue, scénario dingue, tout était fait pour que ce soit un match et une série du coup par extension qui va peut-être rester dans les mémoires à l'Est, je pense.
Ouais, t'as raison. En prolongation, donc il y a Jalen Brunson qui met les 5 premiers points de la prolongation. Et derrière, il y a un 9-0 infligé par Philadelphie. Jalen Brunson qui finit avec 40 points, 3 rebonds, 6 passes, 15 sur 32 au tir. Écoute, j'ai vraiment cette victoire. Philadelphie a été la chercher. C'est une victoire de Philadelphie. Je vais pas remettre ça en cause du tout. Par contre, quand même, je te propose qu'on revienne sur la fin du match, la fin du temps réglementaire, parce que quand même, en regardant le match, New York va avoir énormément de regrets, parce qu'il y a eu un nombre d'erreurs, que ce soit sur la fin du match et en prolongation, assez lourde. Je vous ai noté un petit peu le récap. Je te propose de faire le play-by-play de la dernière minute. Donc, en gros, il y a à une minute quasiment de la fin, il y a une passe de relance pour Anunobi qui peut partir jusqu'au bout. Il y a faute, donc il a deux lancers francs. Il met un seul des lancers francs. Donc, New York se retrouve devant 94-88, donc plus 6 quand même, sachant qu'ils auraient pu être devant un plus 7. Kelly Oubre marque un panier assez incroyable tout de suite sous le panier pour revenir à plus 4, 94-90. Derrière, McBride répond 96-90. Et c'est là que ça devient intéressant. Donc là, il y a plus 6 pour New York. Il reste une trentaine de secondes. Tu te dis grosso modo que c'est plié. Maxi monte la balle. Une faute quand même stupide, dans le sens où tu sens que le mec veut bien faire, mais c'est vraiment la faute que tu dois pas faire, de Mitchell Robinson. Sur un tir à 3 points. Le tir à 3 points incroyable de Tyrese Maxey, hein. Je vous invite à le regarder, parce que c'est vraiment pas, pour le coup, des fois tu sais, les shooters, ils sentent le contact, ils balancent la balle, jusqu'au moment où le ballon quitte ses doigts, tu vois que Maxey, il est concentré sur le tir. Donc faute sur le tir à 3 points, un lancer franc à suivre. Du coup, le score se retrouve 97-94, plus de 3 points d'avance, c'est ça.
Ouais, non, 96-94.
Excuse-moi, 96-94. Et derrière, il y a à nouveau un lancer franc manqué par Josh Hart. Il y a une faute sur Josh Hart. Ouais. Il faut que les Sixers. En fait, les Sixers ont d'abord tenté de jouer l'interception. Quand ils ont vu que ça allait pas être possible, ils ont fait faute sur Josh Hart à une quinzaine de secondes de la fin. Josh Hart rate un des lancers francs, ce qui fait que le score se retrouve. Donc, il reste plus 3 pour Philly. Et c'est là aussi, c'est là que il y a. Pour l'instant, c'est des erreurs de joueurs. Et là, on va pouvoir parler peut-être de l'option défensive prise par New York. Ouais. Plus 3, il reste donc 15 secondes. New York choisit de ne pas faire faute. Maxey qui prend le tir dont tu dis. Pick and roll très haut de Joel Embiid pour Tyrese Maxey. Maxey qui shoot en sortie de dribble. Il est vraiment loin derrière la ligne. Mais c'est une option. On sait que Philly est capable de prendre ça. Il met le panier, égalité. Et derrière, ça part en prolongation. Et donc la question est... Voilà, on sait que ça, c'est des philosophies de coach, que c'est même pas forcément au match par match. C'est en début de saison, ils disent, nous, si on est à plus 3, on fait faute ou on fait pas faute. Ils ont choisi de pas faire faute et ils l'ont payé très cher au bout du compte.
Ouais, ils auraient dû, clairement, là maintenant, avec la manière dont s'est terminé le match, ce qu'on sait, évidemment, ils auraient dû faire faute. Est-ce qu'après, ils ont identifié Maxi comme un joueur capable de faire ce qu'il a fait là? Je sais pas. C'est ça le truc, parce qu'il shoot quand même de loin, ils se sont dit que le danger semblait limité, que c'était pas Damian Lillard. Et ça n'a pas été une bonne option, parce que Maxi en a mis des paniers très lointains pendant la saison et il leur a fait payer cash immédiatement. Donc oui, c'est une erreur de pas avoir choisi de faire la faute, et ça aurait très très certainement verrouillé la fin de match. Les Knicks sont, je réinsiste sur le, parce que dans ce play-by-play qui est hyper intéressant que t'as évoqué, derrière, après ce panier quasi mythique, hein, peut-être pour lui dans sa carrière, on se souviendra de ce panier-là. Il y a le flotteur de Jalen Brunson qui, je pense qu'il va rentrer, hein, et Batum qui arrive et qui le contre au buzzer, c'est au buzzer. Donc cette fin de match, elle était complètement folle, avec des erreurs certainement des Knicks quand ils vont regarder le match. De toute façon, à partir du moment où tu as une avance telle aussi près de la fin du match, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est pas bien passé. Même s'il y a un côté surnaturel avec la réussite qu'a eu Tyrese Maxey, il y a des choses que Tom Thibodeau va, à mon avis, analyser avec un peu d'anxiété à la vidéo ce matin.
Ouais, les Knicks qui ont fait aussi beaucoup d'erreurs en prolongation. Il y a des balles perdues, dont une notamment assez incroyable de Jalen Brunson qui fait mine de vouloir jouer le 1 contre 1 face à Nicolas Batum, s'arrête, commence à faire comme s'il montait dans le tir. À ce moment-là, t'as Hartenstein assez logiquement qui part au rebond Brunson qui lui lâche la balle part en touche. Voilà, sur le match d'hier, Brunson 51 minutes, Josh Hart 53 minutes, OG Anunobi qui a été excellent d'ailleurs avec 17 points, Sierbon 50 minutes. On sait le positionnement de Tom Thibodeau sur le nombre de minutes. On sait que son principe, c'est si tu es habitué à faire ça toute l'année, tu as conditionné ton corps à pouvoir assumer aussi en play-off, être à ce niveau-là en play-off. Il y a quand même la question aussi de la fatigue mentale et de la fatigue de concentration sur la fin. Encore une fois, New York qui fait seulement 16/24 au lancer franc sur ce match, des erreurs qui leur ont coûté très cher sur la fin. C'est toujours facile de repasser derrière et de noter les erreurs, les manquements, etc. Mais au bout du compte, alors que Embiid était vraiment énormément diminué, que de son côté aussi, Tyrese Maxey a joué 52 minutes, Embiid 48, Tobias Harris 49. Voilà, finalement, New York a fait plus d'erreurs sur la fin, quoi.
Ouais, et puis ils ont utilisé que deux remplaçants, Mitchell Robinson et Deuce McBride. Je sais pas s'il avait un pépin physique ou pas, mais par exemple, Precious Achiuwa, j'aime bien ce qu'il a apporté depuis qu'il est aux Knicks. J'ai pas suivi, peut-être qu'il était un peu diminué, mais c'est un joueur qui aurait pu apporter aussi dans la rotation, peut-être faire souffler un peu ici et là. Et oui, bah, c'est du Tom Thibodeau, hein. C'est 51 minutes, 53 minutes, trois joueurs à 50 minutes, c'est quand même pas banal. Sur une seule prolongation, bon, j'espère que ce sera pas, que ça portera pas préjudice aux Knicks. C'est une philosophie qui s'entend. On en a parlé dans notre podcast sur les coachs de lundi. Tom Thibodeau, j'ai une admiration et un respect sans borne pour lui, malgré ses défauts et le côté dogmatique qu'il peut avoir. Mais là, bon, j'espère que ça leur portera pas préjudice.
Ouais. Ouais, et juste pour finir, c'est vrai que New York a très mal commencé le match avant de se reprendre. J'ai été étonné quand même que New York essaye pas de jouer plus rapidement, en fait, notamment quand Joel Embiid était sur le terrain, parce que tu l'as dit, il était très bon en défense, finit 4 contre, mais il a vraiment pas la mobilité qui lui permet de courir. Et j'ai été étonné finalement que New York, avec la salle blindée, toutes les stars étaient là, hein, que ça soit il y avait tous les joueurs majeurs des années 90, il y avait Bill Bradley, des stars du cinéma, de la musique, Fat Joe au premier rang, enfin, il y avait une ambiance de malade. Et en fait, j'ai été très étonné de les voir commencer un peu. Limite avec le frein à main, doucement, tranquillement, alors que c'était Philly qui a tout de suite mis plus de rythme. Voilà, bon, on verra. Je suis curieux de voir les ajustements pour le prochain match. Mais je pense vraiment que New York aurait intérêt à forcer Embiid au point de rupture, en le forçant à courir, pour voir ce dont il est capable. Bon, les deux équipes sont pas mal diminuées.
Ouais, l'ambiance va être folle au prochain match aussi, parce que les fans des Sixers savent mettre le boxon, donc ça va être... Ça va être un match absolument immanquable, le Game 6.
Ouais, allez, je te propose qu'on reste, donc toujours, de toute façon, les trois matchs étaient à l'Est. Une autre série qui aurait pu prendre fin hier, honnêtement, je vais pas te mentir, Shai, moi je pensais que tout était parti pour qu'elle prenne fin hier. Ouais. Énorme retournement de situation, victoire sans appel, 115-92 des Bucks face aux Pacers, dans un match où, après le premier carton, Les Bucks ont littéralement roulé sur Indiana. Match impressionnant de Chris Middleton, qui finit avec 29 points, 12 rebonds, 5 passes. 29 points aussi pour Bobby Portis, pour aller avec ses 10 rebonds. Pat Beverley, incroyable, 4 rebonds, 12 passes. Et voilà, un nombre d'insultes qu'on n'a pas pu quantifier. Ouais, quand même. Réaction d'orgueil énorme de la part des Bucks. Et on en avait parlé ensemble, Shai, au match précédent. Milwaukee avait très bien joué, en fait. Ils avaient vraiment bien joué, simplement ils avaient manqué peut-être de réussite. Bobby Portis qui s'était fait exclure dès les premières minutes du match. Là, c'était une domination impressionnante.
C'est ça qui est le plus surprenant, parce que qu'ils arrivent à reprendre un match, ça, c'est pas en soi si étonnant. C'est que je m'attendais à ce que ce soit peut-être poussif dans la difficulté. Et là, t'as raison, en dehors du premier carton, ils ont super bien géré ce match. Il n'y a toujours pas Yanis, il n'y a toujours pas Lillard. Et à côté de ça, ça a été collectivement très, très solide, très cohérent. Et on les pensait peut-être plus capables, sous cette version-là, sans les deux stars, de gagner un match tout court, et de gagner un match aussi facilement, parce qu'après le premier carton, ça a été à sens unique. Les Pacers n'ont pas du tout ou plus du tout réussi à mettre en place leur jeu rapide, très offensif. Et on a retrouvé cette rigueur défensive, ces efforts qui sont aussi la marque de Milwaukee. Et tu parlais du tandem, c'est clairement le tandem qui a fait la différence. Chris Middleton et Bobby Portis, tous les deux 29 points et en double-double. Et Portis, c'est vrai, tu parlais de son expulsion, il avait une revanche à prendre, parce qu'il les a clairement mis dans la sauce avec son expulsion la dernière fois. Et là, il a été vraiment très très bon. C'est un joueur qui, on sait ce qu'il apporte. Il était nommé pour le titre de sixième homme de l'année. Middleton, pareil, ça reste le lieutenant Giannis, le joueur dont on attendait le retour physiquement en pleine forme, et qui apporte une tonne de choses sur un terrain. Là, il l'a encore fait. Il fait 25 points, 12 rebonds, 5 passes, je crois. Donc, il a été impliqué dans tous les secteurs de jeu. Et ça a été, je crois que c'est les deuxième et troisième cartons, vraiment, ça a été totalement un sens unique. En défense, très impressionnant de la part des Bucks, comme je le disais. Je crois que je l'avais noté, je l'ai mis de côté. Voilà, entre le deuxième et le troisième quart-temps, ils ont pris que 36 points, les Bucks, et ils en ont mis 64. Donc c'était une démonstration à laquelle personnellement, je ne m'attendais plus, vu ce qui s'était passé sur les deux matchs précédents.
Ouais, ils ont claqué un 18-2 dans le deuxième carton qui a laissé les Pacers un peu complètement sonnés. Faut reconnaître, franchement, chapeau à Doc Rivers. C'est un coach voilà, sur lequel j'ai beaucoup de réserves, mais là, travail exceptionnel parce qu'effectivement, déjà au match précédent, son équipe avait très bien joué. Et là, ses joueurs étaient prêts à jouer. Le plan de jeu était clair. Et ce qui est assez marrant, c'est que finalement, les années moi, où j'ai préféré Doc Rivers en tant que coach, c'est son passage à Orlando. Donc, c'était il y a un moment, hein, il y a vraiment longtemps, avec Tariq Abdoulaye et compagnie. Et je ne sais pas si tu te rappelles de cette équipe des Clippers, Shai, avant l'arrivée de Paul George
Ouais, avec
et
Pat
Kawhi
Beverly et
Leonard.
tout ça,
Exactement. Avec Tobias Harris, des joueurs qui n'étaient pas forcément référencés, mais avec un style de jeu très affirmé, une équipe qui jouait vraiment bien et qui avait embêté pas mal d'équipes dans la conférence Ouest. Finalement, j'ai l'impression que c'est peut-être ce type de scénario dans lequel il arrive à mieux révéler ce dont il est capable en tant que coach. Je ne sais pas, en tout cas, voilà, chapeau à lui, quoi.
Ouais, mais parce qu'il a eu l'étiquette de coach de star parce qu'il s'est retrouvé à la tête des Celtics quand ils ont fait venir le Big Three. Mais t'as raison, ses meilleures saisons, hein, c'est celle où il avait une escouade un peu plus modeste au niveau du CV. Celle avec les Clippers, j'avais beaucoup aimé cette équipe. Et d'ailleurs, comment dire, la fusion, mais l'arrivée de Kawhi et Paul George s'était faite un peu difficilement au début parce que des gars comme Pat Beverley et d'autres qui étaient là étaient un peu réticents à l'idée de voir des mecs avoir des passes droits alors que eux avaient fait une saison au courage alors que personne ne les attendait et qu'ils s'étaient révélés comme ça. Mais bah, ouais, peut-être que c'est le meilleur scénario pour Doc Rivers de ne pas avoir de star. Alors ça a ses limites, hein, parce que ce qu'il faut dire, c'est que c'est la première fois qu'une franchise remporte un match de playoff sans ses deux meilleurs marqueurs en saison régulière. C'était jamais arrivé. Et bah, là, ils ont réussi à le faire et c'est au crédit de Doc Rivers. Sur la durée, bon, ça a ses limites, hein, parce que bon, je pense que j'ai l'impression qu'Indiana va quand même remporter la série, à moins qu'il y ait un retour d'un des deux, voire des deux. Et même si Milwaukee passe Indiana, ce qui peut encore arriver, derrière, ce sera quand même compliqué. Donc, mais il faut saluer, tu as raison, à cette performance des Bucks et de leur coach, Doc Rivers.
Ouais, ce qui est intéressant, c'est que finalement, Milwaukee a réussi à renverser, je pense, la pression qui sera sur les épaules d'Indiana et a fortiori à domicile. Pour le coup, c'est pas forcément le scénario le plus simple pour une équipe un peu inexpérimentée. Il y aura la pression du résultat, sachant que voilà. Alors bien sûr, on n'a pas de réponse précise concernant la disponibilité de Giannis Antetokounmpo et de Damian Lillard. Doc Rivers a un peu botté en touche en disant, bah je sais pas, tout ce que je sais, c'est qu'il se rapproche de plus en plus. Affaire à suivre, en tout cas, voilà, finalement, cette série qu'on a cru plier, quelque part, je trouve qu'elle s'est complètement relancée dans son intérêt. Une autre série qui est vraiment de plus en plus passionnante, je trouve, parce qu'elle avait commencé un peu mollement, en fait, avec des matchs un
Un
peu à
peu,
sens
ouais.
unique. Voilà, c'est la série entre le Orlando Magic et les Cleveland Cavaliers. Victoire de Cleveland au bout du suspense, 104-103 hier, dans un match qui a été disputé tout du long, avec des changements de... Enfin, une équipe était devant, puis c'était l'autre. Après, c'était égalité. Des stars qui, finalement, ont réussi à se montrer alors qu'on se demandait un peu où elles étaient passées. 104-103, okay, forcément un match qui doit te laisser peut-être un petit peu de regret. Chaque toi, tu y avais cru pour Orlando sur ce match?
Ouais, bah surtout quand j'ai vu que Jarrett Allen jouerait pas, alors je me suis dit que c'était une occasion en or pour Orlando de prendre l'avantage en gagnant là-bas. Parce que Jarrett Allen, honnêtement, je pense que c'était le meilleur joueur des Cavs depuis le début de la série. Et bah, je me suis dit que ça allait, ça, ils allaient, le Magic allait pouvoir en profiter. Et au final, Magic n'en a pas profité. C'est pas passé si loin que ça parce qu'il y a eu des gros matchs. Il y a eu un gros match de Paolo Banchero quand même.
Match
Qui
énorme.
a fait, voilà, il a fait vraiment une prestation de très très haut niveau. 39 points, 8 rebonds, 4 passes. Mais ça n'a pas été suffisant. Les autres ont été un peu moins dedans, on va dire. Et les Cavs ont eu le mérite de bah, d'être assez suffisamment solides. Ce qui est fou, c'est que les Cavs ont été plus maladroits. Donc 46% pour le Magic, 43% pour Cleveland. Ils ont été dominés au rebond, 43 contre 39. Alors l'absence de Jarrett Allen explique ça. Et malgré ça, enfin, le Magic n'en a pas profité. Moi, je reste forcément sur l'action décisive d'Evan Mobley à la fin. T'as Franz Wagner qui peut marquer le panier, quasiment le panier de la gagne. Et t'as Mobley qui réussit un contre assez magnifique d'ailleurs, qui permet de rappeler que c'est un défenseur au potentiel incroyable. Et au niveau même incroyable tout court. Hein. On parle plus de potentiel à ce niveau-là. Donc oui, j'ai le sentiment d'une occasion manquée pour Orlando parce que Mitchell n'était pas dans un grand match non plus, dans un grand soir. Tu sens aussi qu'il souffre du genou. Il a été maladroit une bonne partie de la rencontre. Et c'était prenable, donc c'est ce qui me frustre, mais c'est aussi parfois le petit déficit d'expérience. Les Cavs ont déjà joué des matchs de playoffs, le Magic les découvre, et ça se joue aussi parfois à ça, à cette différence d'expérience.
Ouais, donc contre, tu fais bien de le mentionner, contre exceptionnel quand même d'Evan Mobley, ah, parce qu'il n'arrive pas simplement au deuxième rideau, hein, c'est lui qui défend sur Franz Wagner, qui arrive à le contenir plus ou moins sur le drive, et derrière qui vient le contrer, contre exceptionnel, 14 points, ouais. 13 rebonds, 4 passes d'Evan Mobley, que j'ai à 7 sur 11 au tir, j'ai trouvé vraiment excellent dans ce match-là, vraiment pour le coup dans l'assurance de tout ce qu'il a fait, enfin voilà, j'ai trouvé...
Au poste de pivot en plus, du coup, il a dû jouer pivot, enfin il a été replacé vraiment en 5 pur et dur dans la panse d'Allen, quoi.
Mais c'est intéressant parce qu'on sera Cleveland restait sur deux matchs où ils avaient été apathiques en attaque. Je sais même pas s'ils passent les 90 points sur les deux derniers matchs qui ont été joués à Orlando. Enfin, c'était des tout petits scores en attaque. Et il y a une question quand même. Enfin, il y a des questions qui se posent quand même sur la structure de cette équipe. Honnêtement, en regardant le match, je me disais si Cleveland prend pas ce match, limite c'était un match qui aurait pu être peut-être déterminant sur l'avenir à court terme de la franchise, parce que c'est pour moi c'était un petit peu un ça passe ou ça casse, dans le sens où là, si avec cette équipe qui est quand même plus expérimenté, avec sur le papier je pense un peu plus de talent qu'Orlando à ce stade, en tout cas du développement du Magic, je pense que ça aurait vraiment été dramatique pour enfin il aurait fallu un changement en fait, si Cleveland, et ça reste peut-être en cours, hein, si Cleveland ne passe pas le premier tour, pardon, je pense qu'il faudra du changement. Je sais pas où il sera, c'est dans l'effectif, dans le coaching, je sais pas
où ce sera, hein. Je pense qu'on sait où ce sera, parce que il y a fait quand même assez critiqué, mais
exactement. Mais ce qui était intéressant, c'était de voir effectivement. Alors, est-ce que c'est parce qu'il jouait de manière un peu plus traditionnelle avec un seul big et puis derrière des extérieurs, parce que c'était Isaac Okoro qui a remplacé Jarrett Allen dans le 5. Toujours est-il que l'attaque des Cleveland a mieux fonctionné. On a retrouvé Darius Garland qui était, il était sur les, sur les boîtes de lait partout aux États-Unis. Avez-vous vu le petit Darius Ses parents l'attendent au stand merguez. Il finit avec 23 points, pardon, 5 rebonds. 5 passes, Donovan Mitchell, tu en as parlé, qui finit avec 28 points. Il n'était pas super adroit, mais malgré tout, il a, notamment à la fin, il n'a pas tremblé sur la ligne des lancers francs.
Mais c'est lancé, ouais.
Voilà. Et Bickerstaff qui a changé quand même, qui a bougé un petit peu sa rotation. Il a sorti du formol Tristan Thompson et Marcus Morris, qui a joué 26 minutes. Improbable, qui finit avec 12 points, qui a été important. Ouais. Donc voilà, il y a une belle réaction, je pense, de la part de Cleveland. Et tu l'as dit, ça se joue, je pense, en partie quand même sur la maturité. Orlando avait, je pense, les cartes en main pour prendre le match. Banchero, tu parlais de son match énorme, 39 points, 8 rebonds, 4 passes. Il met 16 de ses points dans le quatrième carton. Et j'étais assez surpris finalement que ce soit Franz Wagner qui joue le panier de la gang. C'est pas pour dire que Franz Wagner n'est pas capable de mettre ce type de tir. C'est pas une mauvaise option. C'est pas ça du tout que je veux dire. J'étais juste un petit peu surpris d'un point de vue la façon dont ce genre de choses se joue habituellement, en tout cas en NBA, où si ça se joue sur une dernière isolation, tu donnes la balle au mec qui est le plus chaud du moment. J'étais un petit peu étonné.
Ouais, Wagner sortait d'un très gros match, donc je pense qu'il avait la confiance. Et,
c'est vrai.
C'est aussi ça. Et lui-même après, il a dit, je sais pas si c'était une bonne idée d'attaquer Evan Mobley frontalement. C'est une marque de respect aussi pour Mobley, mais oui, c'est forcément, s'il le met, on dit c'est bien joué. S'il le met pas,
bien sûr,
on dit que Banchero aurait dû prendre le tir, surtout qu'il était chaud. Banchero qui remet un 3 points derrière, d'ailleurs, inutile parce que c'est au buzzer, mais ça témoigne bien d'à quel point il était chaud dans le quatrième carton. Il y a des regrets forcément. J'espère que Magic veut pas le regretter et va réussir à régler la mire pour le prochain match. Il y a un fait qui m'a semblé important aussi, parce que t'as Max Strus du côté de Cleveland qui était complètement à la cave en termes d'adresse.
C'est clair.
Sur le début de la série. Et là, sur un match, donc il met que 4 paniers à 3 points, entre guillemets, c'est plus que sur les 4 matchs précédents, quand même. En tout, en cumulé. Donc c'est un retour à la normale. C'est quand même un shooter de très haut niveau, et les Cavs ont besoin de son adresse. En 2024, si ton meilleur shooter ne peut pas mettre plus de 3 paniers à 3 points sur 4 matchs, c'est que ça va pas. Et le fait qu'il ressorte, qu'il retrouve un petit peu d'adresse extérieure, c'est un signe positif pour Cleveland aussi.
Carrément, carrément. En tout cas, moi je pense que l'ambiance va être folle au prochain match à Orlando. Ouais. J'espère que cette série ira en 7 manches, honnêtement, parce que je la trouve. Je trouve que autant on s'est un peu ennuyé au début parce que c'était des matchs à sens unique, autant maintenant je trouve qu'il y a une toute autre saveur. Donc j'espère que ça ira loin à suivre. Ce soir, il y a à nouveau une soirée de play-off, bien entendu, avec deux matchs simplement, un dans la conférence Est, l'autre dans la conférence Ouest. Il y aura le Game 5 entre le Heat et les Celtics. Et il y aura le Game 5 également, hyper attendu, entre les Mavs et les Clippers. Là aussi, ça promet pour ces deux matchs ce soir. Ouais, carrément.
Ça va être très chaud. Ouais.
Carrément. Bah écoute, Shai, je sais pas, tu voulais rajouter quelque chose? On referme ce CQFR là-dessus. Qu'est-ce que...
Parmi les news, on a juste appris que Kristaps Porzingis ne jouerait pas le prochain match pour Boston, justement.
Tu fais bien le noter, ouais.
On en avait parlé, de toute façon, sa blessure est problématique. On n'a pas encore le degré de gravité, donc on savait que ça lui ferait manquer, a priori, le reste de cette série-là, ce qui est potentiellement pas si dramatique, mais faut quand même espérer que pour les Celtics, que sur la suite de leur parcours, ils récupèrent Kristaps Porzingis, ouais.
Ouais, donc tout ça, on suivra. Bien sûr, si des informations tombent, vous pourrez les retrouver sur Basket Session quasiment en temps réel. En tout cas, nous, on vous souhaite de bien profiter de ce 1er mai. Reposez-vous pour la nuit de playoff qui s'annonce. Et puis, on vous dit à demain matin. Ciao.
À demain.